annonce croustillante.
Ils ont eu leurs chips au final, ouais.
Bravo à l'équipe de les avoir trouvés. Bon, je te propose qu'on fasse une petite pause musicale et qu'on écoute, oh, s'il te plaît, merci d'être venu parce que c'est une excellente occasion pour le faire, Hey Ho de Tragédie.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, bah c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Pour notre invité, les festivals, c'est beaucoup de choses que les gens ne voient pas nécessairement. C'est un truc qui se centre beaucoup sur l'anticipation maximale de tout ce qui pourrait arriver. C'est du job, 4 mois pour le plus grand dance floor du Valais, qui se tiendra d'ailleurs ce week-end à Monté. Pour de la programmation, la technique, le bar, l'organisation et la sécurité, ben ça demande tout ce travail. Avec des artistes en ce moment, c'est de plus en plus à la bonne franquette pour le plus grand dance floor du Valais. Mais des fois, c'est aussi aller chercher des chips croustillants à 1h du mat. Plongeons-nous, Gaël Schwendi, organisateur du plus grand dance floor du Valais, plongeons-nous dans la programmation. Commençons par ce samedi, le 27 avril, à la patinoire de Monté. Qui c'est qu'on va pouvoir écouter et voir?
Alors ce samedi, c'est la traditionnelle soirée années 90-2000 qu'on avait débuté en 2016. Donc si j'enlève le Covid, ça fait je crois la 7e édition, sauf erreur. Et on invite à chaque fois au moins un artiste qui a fait un grand hit dans ces décennies-là. On avait reçu Cascada, Bass Center, Rednex, Nadia l'année passée.
Ouais.
Et cette année, on a voulu rester sur le côté un petit peu français, donc on a booké Tragédie, qui sont les auteurs du titre qu'on vient d'entendre il y a quelques minutes.
C'est énorme, Tragédie. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de monde qui doit sentir au plafond, beaucoup d'adolescents que nous étions. Mais bon, ça c'est en plus de Tragédie, qui c'est qu'on va pouvoir voir, parce qu'il y a des DJ avant et après, c'est juste, hein?
Oui, il y a deux DJ qui sont très très doués dans tout plein de domaines, mais particulièrement dans celui-là. Donc il y a vraiment tous les titres qu'on a adorés. Ça va des Spice Girls, là, Fatal Bazooka, Céline Dion. Il y a vraiment de toute la décennie 90 jusqu'à 2010 environ.
Ah, c'est malheureux pour les personnes de mon âge. Mais parce qu'on va rentrer avec des courbatures, parce que bon, moi je fais partie de ceux qui sont plus tellement jeunes, mais la semaine prochaine, là par contre, on pense justement aux plus, enfin, à ceux qui sont un peu moins vieux. Qui c'est qu'on aura le 4 mai au même endroit, la patinoire de Monté?
Faut quand même dire que sur l'indice, on a un public vraiment très vaste. Hein. Faut pas penser qu'il y a que des 30, 40 ans. Il y a vraiment, ça débute à 18 ans et puis ça va jusqu'à 30, 45 ans. Il y a vraiment, c'est ce que j'aime beaucoup en Valais d'ailleurs, c'est que les gens se mélangent et tout, ce qui est pas forcément toujours le cas, mais là, on a vraiment tout plein de différentes personnes et c'est ça que j'aime beaucoup.
Alors, voilà. Génial!
Et pour le week-end prochain, parce qu'on revient effectivement samedi prochain, là on est sur plutôt des musiques actuelles. Donc là effectivement on est sur un public un peu plus jeune et on reçoit deux artistes qui sont très connus, on va dire sur les 18-25 ans, qui sont NASA et Que Black.
Quel genre de musique ça va être pour les vieux comme moi?
Alors musicalement on aura un petit peu de tout, on aura un peu d'électro, on aura un peu de rap, un peu d'hip-hop, tout ce qui se fait maintenant, ce sera assez populaire, donc assez festif quand même. Et les deux artistes qu'on a, ils sont, je dirais c'est du rap, mais c'est presque, on vire presque sur la pop des fois, c'est très, très commercial.
Et puis, on va revenir à ce week-end, qu'est-ce qu'on va pouvoir, parce que je crois que vous avez mis un petit peu des moyens au niveau technique pour nous en mettre plein la vue, est-ce que tu peux nous teaser un petit peu ça, nous donner 2-3 infos?
Alors chaque année, c'est vrai que ça devient gentiment un rendez-vous que les gens apprécient et rien, donc chaque année on essaie d'augmenter un petit peu les infrastructures. Cette année on a voulu faire un écran, enfin on a beaucoup misé sur l'écran LED, donc il y aura un écran LED de 11 mètres de haut, donc quelque chose d'assez dingue. On a dû d'ailleurs rajouter de la puissance électrique parce qu'il n'y en avait pas assez dans la patinoire, donc on a rajouté des câbles, des tableaux, etc.
Ça c'est un truc de voir rajouter de la puissance électrique dans une patinoire. Continue.
Oui, c'est pour dire à quel point il y aura vraiment de la technique. Donc je ne vais pas trop en dévoiler parce qu'on garde un petit peu côté surprise. Si on se base sur l'affiche, on est sur un thème Poséidon cette année, donc ça donne déjà un petit indice sur le genre de contenu qu'on pourra avoir diffusé.
Et toi, à organiser ce festival-là, qu'est-ce que tu ressens finalement? Est-ce que c'est juste un business ou bien est-ce qu'il y a un vrai kiff derrière?
Non, c'est un vrai kiff. Moi, si je conseille à personne de le faire juste pour le business parce que c'est beaucoup de travail, c'est des grands risques aussi. Alors, on est sur un budget qui est pas loin des 100 000 francs quand même, donc c'est quand même un grand risque. On doit vendre beaucoup de billets. C'est beaucoup de stress aussi. On apprend à le gérer au fil des années, mais y a quand même toujours une semaine avant un stress de savoir est-ce que ça va bien se passer, est-ce que ça s'est toujours bien passé d'ailleurs, mais il y a quand même ce petit stress qui perdure. Mais il faut être très passionné, je pense, pour être là-dedans.
Ouais, justement, en parlant d'organisation de festival, en Suisse, on est un des pays d'Europe qui en organise le plus. J'avais fait une fois une recherche pour l'université. Quand j'étais à l'Uni, en 2012, il y a eu 430 et quelques festivals. Je me suis arrêté à ce niveau-là. Le plus compliqué, c'est quoi? C'est trouver une date?
Trouver un lieu déjà, parce qu'il y a, ça devient de plus en plus difficile, parce qu'il y a, voilà, il y a plein de communes qui du coup disent, ah non, on veut, ça fait du bruit, on veut pas, donc il faut déjà trouver le lieu. Bon, on a un bon programmateur, mais en dehors de ça, c'est compliqué de booker les artistes, de montrer pas de blanche. Il y a rien de fondamentalement difficile, mais tout réunir ensemble, c'est, voilà, beaucoup de choses à faire. C'est la réunion de tous les éléments qui font que ça devient assez complexe.
Donc en fait, par séparé, on va dire par fascicule, ça va, c'est gérable, mais tout ensemble, c'est compliqué. Donc c'est d'autant, enfin c'est ça la raison pour laquelle t'as autant de monde finalement qui travaille pour une ou deux soirées.
Bah, j'ai fait l'erreur au tout début, hein, donc il y a une dizaine d'années en arrière, de vouloir faire un maximum moyen, mais on se fait vite déborder. Donc c'est, je dirais, le plus important, si je vais choisir une chose, c'est d'être bien entouré, parce qu'il y a, voilà, c'est très compliqué d'être bien entouré. C'est un des points primordial. Pardon.
Et un petit mot pour les personnes qui stateraient encore, qui se demandent déjà, est-ce qu'il reste encore quelques entrées pour samedi et pour samedi 4 mai, pour samedi 27 avril et 4 mai?
Alors, il reste des entrées, ça se vend très bien, on est très contents, et surtout il y a un tarif évolutif, un petit peu comme EasyJet, où plus on attend, plus les prix sont chers. Donc vraiment, je conseille à ceux qui n'ont pas encore pris le billet de le faire maintenant, parce que les prix vont grimper, et il va peut-être rester 20-30% des billets, donc, mais ça part assez vite.
Et puis il y a un petit mot justement qui pourrait les motiver, une petite dernière phrase.
J'ai envie de garder un peu la surprise, mais ça va vraiment être quelque chose de, techniquement, on va faire vraiment un truc unique. Et puis voilà, c'est une patinoire, on transforme un lieu complètement qui est pas du tout fait pour ça. Il y a vraiment une super bonne ambiance à chaque fois, donc
Donc on va en prendre plein la vue. Exactement. Dans un endroit spectaculaire qui est pas prévu, enfin qui est pas habituel, donc dans lequel on va pas forcément pour ça.
Bah, c'est ça qu'on aime, c'est prendre des lieux qui sont pas du tout faits pour ça. On a un autre festival qui s'appelle le plus grand lune de Suisse, où on prend aussi des grands volumes un peu cubiques comme ça, on les transforme complètement, et c'est ça qu'on aime faire.
Bon bah écoute, bon vent au plus grand dance floor du Valais. Battez-vous pour les quelques entrées qui restent pour aller voir Tragédie si vous êtes plutôt de ma génération ou amant des années 90 et 2000. Et puis la semaine prochaine, rappelle-moi juste les noms des actrices, c'est NASA et Que Black.
NASA et Que Black, et on a aussi un événement à 19h pour les moins de 18 ans, parce qu'on a toujours les moins de 18 ans qui nous disent « Ah mais on peut jamais venir aux événements ».
Donc il y a une live party.
Voilà, là on aura Bébé, qui est un des, je sais pas si tu connais un peu, c'est une star de la télé-réalité, et puis NASA qui fait du coup un double show, donc un show pour les moins de 18 ans à 19h, et puis après la soirée qui revient pour la soirée.
Et une page web, on peut trouver tout ça?
Oui, c'est oniriafestival.com, comme ça se prononce au singulier.
Ben c'est parfait, on a toutes les informations. Merci infiniment Gaël Schwendi. Je rappelle que tu es organisateur du plus grand dance floor du Valais à monter, qui se tiendra ce samedi 27 avril avec Tragédie et le 4 mai avec NASA Que Black. Merci infiniment d'être venu maintenant lancer un petit peu plus sur les festivals. Je te souhaite une excellente soirée.
Merci beaucoup.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit. C'est chaud
sur le grill. Oh,
la drame, autrefois appelée la dramatique, propose une création 2024 à Aigle. Stéphane Gabiou, bonjour.
Bonjour.
Alors Stéphane Gabiou, déjà juste rappeler quand même, parce que moi j'adore l'histoire, que la drame, c'est une des plus vieilles sociétés aiglonnes.
On peut le dire, on a fêté nos 100 ans il y a 2 ans, donc c'est une vieille dame mais qui se porte bien. À 102 ans, je peux vous dire qu'elle se porte toujours très bien.
Alors justement, 102 ans d'existence, la drame qui propose une création qui s'appelle Homme... Expliquez-nous cette création.
Alors pour tout vous dire, on s'est intéressé aux femmes il y a une dizaine d'années, c'était un gros travail déjà, hein. Et 10 ans plus tard on s'est dit mais pourquoi pas s'intéresser une fois au masculin, et c'est ce qu'on vous propose effectivement dans ce spectacle qui est rempli de petits sketchs, de petites scénettes autour de voilà, la figure de l'homme. Aujourd'hui en 2024, c'est parfois un peu compliqué d'être un homme, parce qu'on peut plus être le gros macho sur son piédestal qui a tous les droits, et notamment sur les femmes. Heureusement, la société a beaucoup évolué, et donc on s'interroge un peu sur la place de l'homme aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est d'être un homme aujourd'hui en 2024? On le fait avec, je vous rassure, beaucoup d'humour, mais aussi pas mal de poésie.
Alors justement, poésie et humour, pour amener un sujet qui est effectivement sensible, il y a un changement rapide de notre société dans tout, et justement dans la position masculine, on doit, les hommes, retrouver aussi un peu notre place, exister dans tout ce qu'on a envie, parce qu'on aime aussi, nous, ce monde-là, si on le présente comme ça, c'est de cette manière-là, mais on doit exister.
C'est ça, exactement, et donc on a sur scène, pendant ce spectacle, régulièrement des hommes qui viennent un peu, voilà, nous partager avec nous ce côté un peu genre, bon, qui est-ce que je suis vraiment, et qui est-ce que j'ai le droit d'être en tant qu'homme, est-ce que j'ai le droit encore de faire ça, d'être justement un petit peu macho, un peu avoir de la testostérone, mais en même temps je dois être très sensible, je dois être un très bon père, je dois être un bon amant, je dois être un bon mari, je dois être un bon grand-père aussi. On a aussi un sketch qui raconte cette relation entre un grand-père et sa petite fille. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a des comédiennes, donc ça veut dire qu'on a des personnages féminins qui apparaissent, et là c'est aussi un peu la même chose. C'est, dans le fond, les femmes, comment est-ce qu'elles se positionnent par rapport à nous, les hommes d'aujourd'hui 2024, comment est-ce qu'elles arrivent à tisser peut-être une nouvelle relation, une nouvelle manière d'être avec les hommes.
Alors comme c'est une création, on va justement parler de cette création, puisqu'on imagine que les dames ont donné leur point de vue dans cette création, on va le présenter d'ici quelques instants. Juste rappeler, ce spectacle, c'est en plus dans un caveau magnifique, au cœur de la rue de Jérusalem à Aigle. On est dans un lieu, là aussi, chargé d'histoire et qui en impose quand même.
Oui, c'est assez magique comme lieu. C'est l'ancienne génération, dans le fond, de la Drame qui avait trouvé ce lieu, qui l'a transformé pour en faire un lieu absolument magique, vous le dites, Cyril, dans lequel on adore accueillir notre public. Ça fait maintenant bientôt 50 ans que ce lieu vit grâce au théâtre et grâce à ce qu'on peut proposer dans nos spectacles.
On rappelle donc cette création de la Drame Homme avec un astérix. Il faut le rappeler, ladrame.ch. C'est du 25 avril au 5 mai à 17h. Toutes les réservations ladrame.ch ou au 076 735 42 52. Ouverture des portes et du bar 30 minutes avant. On se retrouve d'ici quelques instants.
À tout à l'heure. C'est chaud.
Sur le grill.
Oh, Radio Chablais, programme de nuit.
Sur le grill.
Homme avec un astérix, c'est la nouvelle création de la Drame pour cette saison 2024. Ça commence ce soir, jeudi à 20h, les samedis à 19h et les dimanches jusqu'au 5 mai à 17h, ouverture des portes et du bar, 30 minutes avant la représentation. On le disait il y a quelques instants, c'est au magnifique caveau de la Dramatique à la rue de Jérusalem à aigledrame.ch pour toutes les infos. Stéphane Gabion, on continue justement à parler de ce spectacle Homme avec un astérix. Pourquoi cet astérix?
L'idée, c'est probablement de se dire qu'il n'y a pas qu'un type d'homme aujourd'hui, et que derrière l'astérisque, on peut voir cette diversité du masculin aujourd'hui. On avait envie un peu de mettre ça en avant. Et puis, on s'est beaucoup amusé. Là, c'est surtout les filles de la troupe qui se sont amusées notamment à écrire un sketch qui s'appelle La Métamorphose, dans lequel elles imaginent ce que ce serait d'être un homme pendant 24 heures. Donc, elles se retrouvent dans un cabinet d'un thérapeute qui offre ça. Et donc, mesdames, pendant 24 heures, vous allez pouvoir vous retrouver dans la peau d'un mec, en fait, d'un homme. Et qu'est-ce que j'ai envie, moi, en tant que femme? Qu'est-ce que je souhaiterais être comme genre de mec si j'avais 24 heures à disposition?
C'est très sociologique, comme spectacle. C'est hyper intéressant parce que, justement, les femmes ont pu enfin s'émanciper. Les femmes existent de plus en plus et de la plus belle des manières dorénavant. Mais maintenant, justement, l'homme, c'est le but de ce spectacle, doit trouver sa place au milieu de tout ça. Qu'est-ce qu'elles en pensent, les femmes de la troupe, et comment elles écrivent? Parce qu'elles ont toutes aussi des avis différents.
Moi, je pense qu'elles sont très sensibles au fait que aujourd'hui, les hommes, ils ont effectivement peut-être développé davantage de sensibilité, davantage de peut-être de modestie. On disait tout à l'heure, voilà, ils sont peut-être redescendus de leur piédestal. Et je pense que les femmes, j'ai l'impression qu'elles aiment ce nouvel homme aujourd'hui et qu'elles nous encouragent à aller dans cette voie. Mais en même temps, elles sont toujours tiraillées, titillées un peu par peut-être la force tranquille qu'on peut exprimer nous les hommes. Et elles recherchent aussi ça. Alors, est-ce que j'ai encore le droit aujourd'hui, en tant que femme, d'aimer des hommes qui sont un peu machos, un peu virils, etc. Donc, on a un sketch, par exemple, qui raconte ça, dans le fond, d'une femme qui dit, mais attends, moi, je sais que normalement, je suis plus censée aimer ce genre de caricature de l'homme, mais en même temps, je suis quand même un peu attirée. Donc, comment est-ce que je peux, aujourd'hui, en 2024, avancer avec tout ça?
C'est sociologique en même temps comme spectacle. Vous le traitez avec poésie, avec beaucoup d'humour, donc on va passer un très très bon moment. Et en même temps, bah forcément, on va réfléchir un petit peu à la position de lui ou d'elle, de notre relation, ou même pas, même en tant que célibataire.
Exactement. En fait, le but, c'était, là, effectivement, vous dites, Cyril, c'est sociologique, on a l'impression que c'est un peu intellectuel. Nous, on voulait pas ça, on voulait qu'on rigole beaucoup, qu'on soit touché aussi, qu'il y aura de l'émotion, il y aura de la poésie, mais qu'on ressorte avec, dans le fond, des réflexions, qu'on partage un petit peu, voilà, qu'on brasse un petit peu toutes ces idées autour du masculin, du féminin aujourd'hui, mais effectivement plutôt dans une bonne humeur.
Dans de la bonne humeur, en passant un très très bon moment, et c'est le meilleur moyen de peut-être se lâcher et d'échanger. On rappelle, Homme avec un astérix, c'est la création de la Drame pour cette saison 2024. Ça commence ce soir, jeudi, c'est à 20h tous les jeudis et vendredis, les samedis à 19h et les dimanches à 17h jusqu'au 5 mai. Ouverture des portes et du bar 30 minutes avant la représentation dans le magnifique, on le répète, caveau de la Dramatique à la rue de Jérusalem à Aigle, ladrame.ch ou le 076 735 42 52. Plein succès à vous, Stéphane Gabillon, merci.
On prend, c'est très gentil. Merci Cyril.
Sur le grill.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Radio Chablais.
Le nombril du monde. Bienvenue chez nous. C'est plus grand que ce que je croyais.
Le nombril du monde, c'est toujours Colombet. On sort du monastère des Bernardines, on profite de cette quiétude, il y a les oiseaux qui piaillent, il fait bon, il fait frais, il a failli neiger ce matin, mon très cher guide Emmanuel.
Effectivement, la météo n'est pas à la hauteur de nos espérances, je dirais, voilà, ce matin.
Il y avait de la neige mélangée à de la pluie ce matin chez vous quand je suis arrivé, et on est le 18 avril, tout va bien. Bon, on va donner envie aux gens de venir au Nombril du Monde ici à Colombey. Qu'est-ce qu'on a comme activité ou comme événement à ne pas manquer ?
Alors, je dirais qu'il y a toujours les activités sportives. Si quelqu'un veut s'établir dans la commune, je pense qu'il y a toujours un club sportif qui est à sa dimension et à ses attentes. À part ça, il y a toujours des clubs culturels, enfin des sociétés culturelles, les fanfares, les chorales. Chorales qui ont des niveaux assez intéressants. Et puis, à part ça, il y a une commission culturelle de Colombey-Murat qui fait toujours une série d'événements sur la commune chaque année, très éclectique, c'est très intéressant, de beaux événements. Alors, je pense qu'il y a de quoi faire déjà à Colombey-Murat.
Donc là, on peut aller regarder colombeymurat.ch.
Oui, et puis sur le site de la commune, il y a tous les événements qui sont écrits normalement.
Et c'est vrai que la commission culturelle ici, elle bosse pas mal, hein.
Ah, je trouve qu'elle fait un joli travail, effectivement. Vraiment des choses très éclectiques dans tous les domaines, cinéma, concerts, spectacle comique, etc. Donc bravo à l'équipe, là.
Et puis la fête au village, c'est quand ici ?
La fête au village, normalement, c'est vers la fin août. J'ai pas la date précise en tête, j'ai un petit peu honte, mais allez sur Internet, vous trouverez. Mais c'est lieu de rendez-vous des vieux colombérous et des gens qui apprécient le vin, puisque chaque fois qu'il y a la fête au village, il y a Viti Colombey avec une quinzaine d'encaveurs, tous plus intéressants que les uns que les autres. Peut-être que les derniers, on arrive moins à se rendre compte de la qualité du vin, vu les dégustations précédentes.
Et puis sinon, il y a aussi de quoi se balader par ici, parce que le bois des Fauges...
Alors, le bois de Fauges, je dirais plutôt, moi...
En patois, oui.
En langage de Colombey, le Fauges. Alors oui, il y a tous les chemins en dessus du village de Colombey, sur la route du sentier des blocs erratiques, qui est intéressant. Et c'est toujours intéressant de voir les murs de soutènement sur ces chemins, qui nous rappellent justement que les chariots arrivaient dans ces forêts. Puis maintenant, on peut monter en altitude, on a des Mayens, on a également la pointe de Bellevue, et puis des sentiers pédestres qui nous y mènent, et qui sont absolument splendides. Et si vous aimez la montagne, il y a le sentier qui fait l'arrêt de Préfleury. Vous partez du restaurant de Chalet-Neuf. Vous avez une boucle qui dure à peu près 2h30 et qui passe par l'arrêt de Préfleury, la Combe de Dreveneuse. Vous remontez ensuite sur la Croix de Bellevue. Vous redescendez sur le restaurant de Chalet-Neuf. C'est une petite balade qui est absolument superbe avec beaucoup de paysages différents sur 2 heures de marche. Splendide. Mais un petit peu aérien quand même, suivant les endroits.
Va et découvre ton pays, c'est exactement ce qu'on vous propose tous les matins. Vous avez tout ce qu'il faut dans les mains.
Radio Chablais.
Le nombril du monde. Bonne nuit sur Radio Chablais.
La question improbable.
Pourquoi les pizzas rondes, on les met dans des boîtes carrées et on les coupe en triangles ?
Sur Radio Chablais.
Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale des manchots. Alors que tous les maladroits et maladroites se rassurent, je ne vais pas parler de vous dans cette chronique, ou très peu du moins. Ce sera principalement pour la deuxième heure. Aujourd'hui, en fait, c'est de l'animal dont on va parler. Alors première des choses, ne pas confondre les pingouins avec les manchots. Déjà, ils ne sont pas de la même espèce. Et puis, les pingouins, ils ont des ailes et ils peuvent s'en servir, contrairement aux manchots qui ne volent pas, malgré le fait qu'ils ont des ailes. Et donc, même si cette journée en anglais s'appelle World Penguins Day, ben c'est bien des manchots dont on parle. Pourquoi ? Eh ben tout simplement parce que les manchots sont en voie de disparition. La banquise continue de fondre et ça fait énormément de dégâts sur l'écosystème. Alors pour faire court, il y a pas que ça. Il y a à cause du réchauffement climatique, à cause de la surpêche ou encore à cause de la pollution marine, il y a 11 espèces sur 18 qui sont menacées d'extinction au jour d'aujourd'hui. Et cette journée mondiale, eh ben, du coup, elle sert à mettre en lumière toutes les nombreuses menaces qui pèsent sur les manchots et qui les obligent à s'éloigner de plus en plus des lieux de nidification pour aller chercher à manger. Et du coup, aujourd'hui, on met en lumière les différentes choses à mettre en place pour sauver les manchots de l'extinction. Alors, on va pas se mentir, c'est vrai que c'est un peu déprimant comme news de bon matin. Donc, revenons à ma question improbable initiale pour cette chronique. Pourquoi est-ce que les manchots sont maladroits ? Alors, de ce que j'ai pu comprendre de mes petites recherches, c'est parce que sur Terre, bah, ils sont pas méga agiles. En fait, ils se dandinent en marchant, ils gardent les ailes ouvertes pour essayer de garder l'équilibre. Ils donnent vraiment l'impression d'une grosse maladresse. Alors, je sais pas si vous avez déjà regardé des vidéos de manchots qui marchent. J'avoue, c'est assez drôle. Mais je trouve qu'on dirait vraiment qu'ils titubent comme s'ils rentraient de soirée à marcher avec les bras écartés pour garder l'équilibre ou se protéger d'une chute éventuelle. Alors du coup, maintenant que j'y repense, je sais pas si je dois rire ou être vexée qu'on m'ait traité de manchotte durant toute mon adolescence. Mais si c'est votre cas, eh bien, restez bien à l'écoute parce que dans la deuxième heure, on va déconstruire ensemble cette image de maladroit inconditionnel liée au manchot. Voilà, voilà.
La question improbable.
Pourquoi les pizzas rondes, on les met dans des boîtes carrées et on les coupe en triangles ?
Sur Radio Chablais. Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
La question...
Pardon ?
Tu dis quoi ?
Sur Radio Chablais.
Alors, dans la première partie d'émission, on a parlé des manchots et de pourquoi ils sont considérés comme maladroits. Alors, pour ceux et celles qui prennent le train en marche, c'est parce que les manchots ne sont pas très adroits sur Terre. Ils titubent en marchant et doivent garder leurs ailes ouvertes pour garder l'équilibre. Alors, aujourd'hui, c'est la journée mondiale des manchots et j'ai décidé de déconstruire ce mythe parce que même si les manchots sont des oiseaux qui, sur Terre, ont l'air d'être dans un état d'ébriété constant, ils sont en revanche méga habiles dans l'eau. Alors déjà, ils sont capables d'atteindre des pointes de 30 km/h et puis ensuite, ils détiennent le record de la plongée la plus profonde, donc 564 mètres, et de celui de la plongée la plus longue, près de 28 minutes. Est-ce que vous en connaissez beaucoup des maladroits qui sont capables de telles prouesses. Moi, qui suis maladroite de profession, si j'essaye de nager vite, il y a des chances que j'éborne ceux qui sont autour de moi, que je frappe du pied la mamie qui nageait derrière moi et que je finisse par me casser la tête sur le bord de la piscine. Enfin bref. Et le dernier truc, c'est que le papa manchot est capable de garder l'œuf ou le poussin dans un pli sur sa patte pendant plusieurs semaines s'il n'a pas pu trouver de la place pour construire le nid ailleurs. Moi, je suis incapable de rester en place pendant plus de 5 minutes et je finirai probablement par m'asseoir sur l'œuf parce que ben, j'ai oublié qu'il était là. Tout ça pour vous dire, les manchots sont un peu maladroits sur Terre, mais uniquement quand ils se déplacent. On peut donc affirmer que les manchots sont des maladroits à temps partiel et que si on vous a déjà traité de manchot à cause de votre maladresse, ben, ça veut dire que vous l'êtes seulement qu'à moitié et c'est déjà ça de prix. Voilà, voilà.
La question...
Pardon ?
Tu dis quoi ?
Sur Radio Chablais. Radio Chablais, programme de nuit, suit.
Voici les titres du journal.
Le musée de Montais pourrait ouvrir cet automne, géré par l'association du Vieux Montais. Le futur lieu culturel fera la part belle à l'histoire industrielle de la ville, tout en attirant le jeune public. La justice vaudoise a présenté hier son bilan de l'année 2023, une année marquée notamment par une augmentation des dossiers auprès des offices des poursuites et faillites. La commission de la concurrence sanctionne Swisscom sur son développement de la fibre optique, explication dans ce journal. Et le nouveau président du BBC Montet Chablais a officiellement été intronisé hier soir lors d'une assemblée générale extraordinaire. Il en a profité pour présenter ses nombreux projets.
Du soleil pour la météo pour ce jeudi avant de retrouver les nuages et les averses pour demain. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Valérie Favre. Bonjour Valérie.
Bonjour. Le futur musée de Montet pourrait accueillir sa première exposition en fin d'année. Actuellement en travaux dans le château de Montet, le lieu dont le nom reste à trouver abritera des expositions temporaires et fixes. Parmi celles-ci, une sera dédiée à la ville industrielle de la cité. Équipée de 5 salles totalement rénovées et gérées par l'association du Vieux Montet, le lieu pourrait devenir bien plus qu'un musée au terme du chantier. Jérôme Butet, le président de l'association du Vieux Montet.
Ce château a des richesses, il est mal connu du public et même des Montaisans. Effectivement, la cour pourrait être utilisée pour différentes choses. Et puis, il y aura aussi la création d'un accès depuis une des salles sur les jardins autour du château. Alors, ces jardins pourraient servir pour des prolongations d'expositions avec des sculptures ou des objets, mais aussi peut-être pour utiliser lors des vernissages.
L'association réfléchit à plusieurs moyens pour intéresser les jeunes générations au patrimoine de leur ville. Jérôme Butet.
Ça pourrait être une option d'avoir une salle où on pourrait faire venir des classes, les intéresser à l'exposition temporaire peut-être du moment, ou aller aux expositions permanentes, avec des moyens ludiques, les faire participer un petit peu et intéresser à l'histoire de leur ville. Oui.
L'investissement s'élève à environ 650 000 francs pour la commune. Pour rappel, l'association a vu le jour en 1938. Elle collecte, conserve et met en valeur le patrimoine montaisan, un sujet de Guillaume Abbé. Le Chablouse reprend du service les 9 et 10 août prochains dans le parc du Crocheton. Pour cette 6e édition, le festival montaisan accueillera les Valaisans de Luke Healy and the Cavalry en ouverture, suivi des Vaudois de The Two, puis la Française Cathy Beauvais et son band DTG Gang pour clore cette première soirée. La deuxième soirée sera ouverte par un groupe ultra local, les montaisans Vincent Brothers, qui comprend le chanteur Vincent Barbonne, suivi par The Strikers, un groupe français, et enfin le groupe belge The Blues Bones. La manifestation gratuite recherche encore des bénévoles. L'État de Vaud souhaite davantage de femmes dans la direction des clubs sportifs. Il part du constat que ces dernières ne représentent que 34% des membres de comités et moins d'un quart des postes de présidence. Il a décidé d'agir en leur proposant une formation gratuite dès le mois de septembre. Par ailleurs, une campagne est menée dans le but de les inciter à s'engager, mais aussi pour sensibiliser les sociétés sportives au manque de représentativité des femmes dans leurs structures.
Les activités de la justice vaudoise ont augmenté l'an dernier.
Près de 59 000 nouvelles affaires ont été enregistrées, ce qui représente une hausse de 8% par rapport à 2022. Les offices des poursuites et des faillites ont également reçu un nombre plus important de dossiers. En ce qui concerne le nombre de faillites, l'Est vaudois sort du lot. Christophe Maillard, vice-président du tribunal cantonal.
Oui, alors c'est vrai que la région la plus touchée, c'est l'Est vaudois, avec une augmentation de plus 20%. On a essayé de déceler quelles pouvaient être les explications à ce phénomène, mais il n'y a pas de cause objective qui s'impose dans tous les cas. Donc c'est un constat qu'on peut faire sans explication particulière.
Et cela ne va pas aller en s'arrangeant, selon Christophe Maillard, qui s'est déjà penché sur les premiers résultats de l'année en cours.
On a sorti quelques premiers chiffres pour le début de l'année en tout cas. Il semblerait que la tendance à la hausse se confirme. Il faudra voir si sur la fin de l'année c'est toujours le cas. Mais en tout cas, le premier trimestre n'est pas très, très encourageant.
Par ailleurs, la mise en œuvre de plusieurs projets d'envergure a commencé, notamment celui portant sur le consensus parental dans l'Est vaudois. Lancé il y a un an, il vise à favoriser une meilleure collaboration entre parents lors de séparations ou de divorces conflictuels, un sujet réalisé par Léa Journaux. Les salaires nominaux ont connu l'an dernier une progression nettement supérieure à celle de ces 4 dernières années, selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique. Toutefois, l'inflation est venue jouer les troubles faites et le pouvoir d'achat des Suisses a baissé.
Nouvelle attaque contre Swisscom.
L'opérateur est déjà sous le feu des critiques pour son rachat de Vodafone Italie et son entrée sur le marché des assurances. C'est maintenant la commission de la concurrence qui sanctionne l'ancienne régie fédérale. La Comco condamne Swisscom à verser 18 millions de francs pour avoir tenté d'imposer un monopole sur le réseau de fibre optique. Les explications de notre correspondante à Berne, Marie Vieumier.
Le standard de construction pour la fibre optique est le fruit d'un consensus entre les différents acteurs du marché. Il y a plus de 15 ans, ils ont opté pour un modèle à 4 fibres qui relie directement la centrale à l'utilisateur. Un opérateur peut donc utiliser librement une fibre avec la technologie de son choix. Mais en 2020, Swisscom a commencé à construire en arborescence, avec une fibre centrale séparée ensuite en plusieurs branches. Cela signifie que les utilisateurs se partagent les capacités disponibles d'une même fibre et surtout que les concurrents n'ont plus un accès direct de la source jusqu'à l'utilisateur. Ils doivent se contenter de louer à Swisscom une des branches de raccordement. Les concurrents dépendent donc de la technologie et des prix de Swisscom. La Commission considère cela comme une violation du droit des cartels. Et vu que la durée de vie d'une fibre optique est de 40 à 50 ans, la Comco relève que Swisscom aurait entravé la concurrence pendant des décennies. La décision peut encore faire l'objet d'un recours au tribunal administratif fédéral.
Pour Swisscom, la décision de la Comco est incompréhensible. L'entreprise est convaincue que ses concurrents auraient pu continuer de proposer des offres attractives via la fibre optique. Swisscom annonce que les coûts de déploiement vont augmenter et que du retard est à prévoir dans les zones rurales. À l'étranger, les ailes du Moulin Rouge, célèbre monument parisien, sont tombées la nuit dernière, ont indiqué les pompiers, confirmant une information de BFM TV. Aucun blessé n'est à déplorer. Les sapeurs-pompiers de Paris ont ajouté qu'il n'y avait plus aucun risque d'effondrement. Les raisons de cette chute sont pour le moment inconnues. Ça s'est passé après la fermeture, heureusement, a précisé le Moulin Rouge en indiquant que chaque semaine, la direction technique du cabaret vérifie le mécanisme des ailes du moulin et n'a constaté aucun problème. Le nouveau président du BBC Monté-Chablais a des projets plein la tête. Claude Potier a été intronisé hier soir lors d'une assemblée générale extraordinaire. Il souhaite notamment renforcer le comité, créer plus de synergies avec le BBC Trois Torrents, mais aussi développer le mouvement jeunesse du club. Idée également abordée, la construction d'une nouvelle salle. Claude Potier.
Pour moi, c'est plus qu'une idée. Et c'est pour ça que si on arrive vraiment à créer des synergies avec le BBC Trois Torrents, avec toute la région, etc., je pense qu'on peut présenter un projet tant au niveau des deux municipalités, mais aussi au niveau du canton, puisque la loi cantonale sur le sport permet aussi un financement à hauteur de 30% d'une infrastructure si on est reconnu comme centre de compétences pour le basket. Et moi, je pense que si en Valais, on reconnaît Viège, ou on a reconnu Viège comme pour le hockey, Sion, pour le football, eh bien, pourquoi pas monter le Chablais pour le basket.
Claude Potier remplace donc Laurent Duchaux à la tête des Sangliers. Après 4 ans au BBC Monté-Chablais, le désormais ex-président était soulagé de s'en aller. Il avait dernièrement fait mention d'un épuisement, Laurent Duchaux.
Certainement que j'étais un peu trop égoïste et j'ai certainement peut-être pas assez délégué, mais je connais Claude, ça fait 2 ans qu'il est au comité avec nous, donc je pense que lui, il a une organisation qui est complètement différente que la mienne et il va certainement réussir à faire tout ça.
Ouais,
et
puis quand même un petit déchirement aussi de quitter cette présidence. Alors on a parlé de soulagement, déchirement, on peut aussi le dire?
Non, soulagement, pas un déchirement, parce que j'ai eu beaucoup de plaisir, donc je vois pas pourquoi je devrais avoir un déchirement. Si j'avais eu plein de d'insatisfaction, je pourrais le comprendre, mais là c'est beaucoup de plaisir, donc c'est un soulagement.
Un des propos recueillis par Thierry Nicolet. À noter que Claude Potier sera notre invité en direct lundi prochain dans notre émission, 17h, Le Mag.
L'actu en continu, radiochablais.ca. Bonne nuit sur Radio Chablais.
12h30 sur Radio Chablais, l'heure de Plan Large. Et dans Plan Large aujourd'hui, Florian Barbet rencontre le vigneron et ancien syndic d'Yvorne, Philippe Gex, pour parler entre autres choses du projet Yvorne Grandeur Nature. Il faut noter que cet entretien a été enregistré avant que le gel ne s'abatte sur les cultures du Chablais. Vous l'entendrez dans l'entretien, Philippe Gex évoque ce risque saisonnier et s'en inquiète. Depuis, ce risque est devenu réalité puisque les derniers jours ont lourdement pesé sur les vignes de la région.
Plan Large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan Large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Bonjour Philippe Gex.
Bonjour Florian.
Vous m'avez donné rendez-vous à Yvorne. Et d'Yvorne, on a pris une voiture pour aller dans un de vos vignobles, le fameux...
Clos du Croisé-Grillé.
Voilà, et lui, il est à Aigle.
Hein. Il est à Aigle, mais comme on le dit pour le château Yquem, on est contigu Yvorne.
Contigu Yvorne. ça, c'est un argument marketing.
Ah, naturellement.
C'est un peu votre vin de prestige. Hein. En tout cas, c'est comme ça qu'il est présenté sur le site de la Pierre Latine, qui est votre domaine. Ah, oui. Mais il n'est pas d'Yvorne.
Il n'est pas d'Yvorne. Aigle est une appellation, et probablement l'appellation qui marche le mieux dans le Chablais, pour, à cause d'un vin dont on taira le nom, mais que chacun reconnaît à cause d'un fameux lézard. Voilà. Et puis ce clos du Croisé-Grillé est fameux parce qu'il est extraordinaire sur le plan géographique, extraordinaire sur le plan d'exposition. Et puis avec ce domaine, on fait partie de la mémoire des vins suisses qui répertorie les plus beaux domaines dans chaque région.
Donc ça, c'est un catalogue finalement des meilleurs terroirs.
Ouais, c'est des journalistes suisses alémaniques historiquement qui ont décidé de lister dans le fond dans chaque région un ou deux vignobles. Et nous faisons partie des deux vignobles du Chablais avec le clos du Croisé-Grillé qui font partie de la mémoire des vins suisses.
Et Yvorne, parce que vous dites Aigle est l'appellation qui se vend le mieux. Yvorne, c'était quand même la carte d'identité en Suisse alémanique,
oui,
notamment.
Oui, tout à fait. Yvorne est un vignoble prestigieux et qui a encore une certaine renommée. Mais Aigle, depuis des générations, et grâce à la maison dont on tire allemand, Badou, bien sûr, qui a positionné Aigle sur la carte des vins suisses à cause de son fameux vin le lézard qui a une notoriété nationale évidemment, mais mondiale aussi, parce que c'est un des seuls vins qu'on retrouve à New York ou à Shanghai, ce qui fait qu'Aigle est aujourd'hui dans le Chablais probablement l'appellation la plus demandée.
Bon, on va parler de Yvorne Grandeur Nature, hein, ce projet ambitieux lancé il y a quelques années, on va voir où on en est. Avant ça, on revient un peu sur vous, Philippe Jex. Vous avez abandonné la politique, j'ai regardé, ça fait presque 10 ans maintenant.
2015, exactement. Ouais.
Ça vous manque ?
Pas du tout, mais vous pouvez me poser une deuxième question, Florian.
Non, c'est comme Roger Federer, ça vous manque l'US Open ? Non, ça va. Non, mais bon, c'est un bon souvenir quand même.
Oh, excellent souvenir. J'ai adoré être syndic d'Ivor, mais j'ai adoré ne plus l'être.
Bon, on va garder cette réponse philosophique. Vous êtes recentré sur le métier du vin. C'était déjà votre métier avant, évidemment. Moi, quand je vous vois et je vous rencontre, j'ai toujours l'impression que vous êtes dans ce terroir vaudois, la personne de référence. Vous êtes le couteau suisse, vous connaissez tout le monde. En Suisse, à l'étranger, les grands domaines, vous exportez, vous avez fait quelque chose pour ce vin vaudois de tout à fait considérable. Je le dis, vous allez faire le modeste, mais
je vais pas le faire. Je vais le dire. Ouais. Non, mais vous savez, Florian, un peu grâce à la commune, j'ai été syndic assez longtemps, j'ai eu des activités, j'étais gouverneur de la confrérie du Guillon, j'ai été juge au tribunal des mineurs, j'étais président de Terre à Vin, enfin bref, toutes ces diverses occupations que j'ai occupé pendant, je ne sais pas, 25 ans, ont créé effectivement certains réseaux dans tous les domaines, que ce soit politique, viticole, journalistique, qui aujourd'hui on donne quelques résultats, parce qu'on connaît les gens. Évidemment, quand on connaît les gens, et comme vous le savez, tout est plus facile.
Oui, mais quand on a un réseau, on peut l'utiliser pour soi, on peut aussi comprendre, et on en tire bénéfice forcément, mais que l'union fait la force, et qu'il faut jouer collectif. Vous êtes parti dans tous les pays du monde pour faire la promotion des vins vaudois, pas de vos vins.
Non, mais bien sûr, mais j'ai toujours pensé que l'important, c'était de boire du vin suisse. Et puis si, par hasard, c'était du vin vaudois, ce serait le Saint Graal. Et puis évidemment, si dans les vins vaudois, on buvait de l'Ivorne et si possible la pierre latine, évidemment, c'était gagné. Mais on est plus intelligent tous ensemble.
C'est l'inverse de la théorie à qui je ne donnerai pas de paternité, mais qui est assez classique. Hein. Je préfère mes voisins aux gens de ma ville, les gens de ma ville aux gens de mon pays, les gens de mon pays aux étrangers. Là, c'est l'inverse, en fait. Je prends la globalité et puis sais que, comme individu, je vais en tirer quelque chose.
Mais bien sûr, et c'est dans le fond là, l'origine de ce projet Yvorne d'une grandeur nature qu'on évoquera tout à l'heure. Vous savez, faire des efforts en termes d'environnement sur son domaine personnel, c'est assez facile. On prend les mesures, on décide, on le fait. Le faire sur l'entier d'une appellation, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il s'agit de convaincre le vigneron par définition. Est-ce que j'ose dire, peut-être comme les pasteurs, comme les agriculteurs, c'est des gens foncièrement indépendants qui n'aiment pas trop qu'on leur force un petit peu la main. Donc c'est un travail de longue haleine, mais c'est évidemment plus intéressant quand on est tous ensemble.
Quand on est ensemble pour le faire. Bon, les vins suisses, hein, vous disiez, c'est plutôt pas mal de boire des vins suisses. On a toujours ce problème hein, du prix par rapport à la concurrence étrangère, de la taille aussi du terroir suisse qui fait qu'on n'a pas les quantités pour abaisser les prix. Le virage de la qualité, maintenant, il est global en Suisse. Il s'est fait en Valais, il s'est fait dans le canton de Vaud. On doit miser là-dessus plutôt que sur la quantité.
Mais c'est la condition de notre survie. J'entends, on ne peut pas régater avec les vins du Nouveau Monde, les vins étrangers produits en grande quantité à vil prix. Donc on est condamné à occuper le sommet de la pyramide. Et c'est assez drôle de voir que finalement à l'export, puisque Florian vous en parliez tout à l'heure, nous exportons nous au Japon et aux États-Unis. Le domaine dans lequel on est aujourd'hui, le Clos du Croisé-Grillé, on va pas aborder d'aspect mercantile, mais si je vous vends une bouteille aujourd'hui, elle coûte 32 francs. À Tokyo, ils la revendent 140. Et ça pose pas de problème majeur. Mmh. Donc on mesure aussi à travers l'exportation de nos vins l'image de la Suisse à l'étranger. Et on a une image, pour l'instant, extraordinairement qualitative.
Mais justement, il y a quelque chose d'un peu contre-intuitif hein, quand on a compris cette théorie qu'on devait miser sur la qualité et la clientèle locale parce qu'on n'a pas les quantités pour faire de l'exportation à grande échelle. C'est tout de même important de garder quelques points d'exportation comme ça pour l'image, comme vous dites.
Ah, mais absolument. Moi, j'ai toujours pensé qu'on devrait idéalement exporter 5 à 10% de nos vins à l'étranger. Pourquoi 5 à 10% ? Ça permettrait en permanence de soulager le marché suisse. Et le marché suisse est très compliqué. On a vite trop de vins. On n'en a vite pas assez. Ça a un problème, évidemment, tout de suite sur les prix, sur les volumes. C'est très compliqué. Si on sortait de la Suisse un certain volume, parce qu'on est toujours... Je ne suis pas tout à fait sûr des chiffres, mais je pense qu'on exporte toujours 1% de notre production ou 1,2%. C'est tout à fait confidentiel, donc ça n'a pas d'impact. Si on arrivait à exporter ces 5 ou 10% dans des pays qui sont remarquables sur le plan de l'audience, je pense d'abord à la France, mais c'est vraiment le pays le plus compliqué pour exporter.
Le plus difficile à...
Mais les États-Unis ou le Japon, qui sont friands de nos vins. Je ne sais pas si vous êtes amateur de sushi, Florian, mais magnifiques sushis, il n'y a qu'un vin qui va bien, c'est le Chasselas. Et à Tokyo, il y a un 3 étoiles, un 3 macarons Michelin qui ne vend que du Chasselas vaudois.
Ouais.
Parce qu'il a découvert ça avec ses sushis et c'est mille fois mieux qu'un vilain traminaire odorant ou un Sauvignon du Sud qui sent la traverse de chemin de fer.
Ouais, ça qui est tiède. Non, parce qu'on va pas entrer là-dedans. Bon, mais il y a quelque chose... est-ce qu'on existe ? Est-ce que les vins suisses existent sur la carte du monde ?
Alors... Comment vous répondre le plus honnêtement possible ? Non, il n'existe pas. Mais si on se le répète à l'envi que nous n'existons pas, évidemment,
on n'existera jamais. Ouais.
On se rend compte assez facilement lorsqu'on va à l'étranger. Moi, je l'ai fait très souvent avec l'Office des vins vaudois, avec Pierre Keller, qui reste dans nos mémoires comme le type le plus formidable que le canton ait connu. Eh bien, on se rend compte qu'à l'étranger, nous avons du succès. Mais il ne faut pas faire le Suisse qui attend que ça se passe les mains dans les poches. Je ne vais pas vous citer une plaisanterie de mon vieux copain Raoul Cruchon à propos des gens qui ont les mains dans les poches, mais néanmoins, c'est ça, on est un peu attentiste, on est un peu mou du genou. Si on fait l'effort d'y aller, de le faire, ça marche assez facilement.
Mais il faut y aller et il faut investir de l'argent. Ce genre de réaction intéressante et très sympathique hein, qui est hein, l'étonnement,
mais
l'étonnement
oui.
Positif,
mais
c'est
oui.
Bien
et puis,
ça.
Je dois avouer que si on va assez loin de la Suisse, je ne vous parle pas des pays environnement, mais si on va aux États-Unis, au Japon, en Chine, l'image de la Suisse est quand même extrêmement flatteuse. On sait que c'est un petit pays, qu'il est montagneux, qu'il y a des coteaux, c'est difficile, on sait que la vie est chère en Suisse. Le consommateur final, il s'attend à payer un certain prix. Alors qu'évidemment, si on va chez nos amis de Savoie, qui connaissent la Suisse, etc., ils sont un peu étonnés qu'on vende un Chasselas à 30 francs, alors qu'on peut trouver de modestes vins blancs étrangers à 3 ou 4 francs dans la grande distribution.
Donc il faut garder ces éléments extérieurs. Ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup fait dans le canton de Vaud avec l'office des vins vaudois. Ça devrait être plus large encore. Swiss Wine, ça marche ?
Oui, mais il y a des efforts méritoires. Vous avez vu que les chambres fédérales ont admis un crédit supplémentaire pour valoriser l'exportation des vins. Donc ça bouge.
Oui, à chaque fois, on dit que ça correspond à des cacahuètes par rapport au seul crédit que l'Italie offre à ses vins.
Alors, bien entendu, c'est ce que l'Italie met à disposition pour le marché suisse. Les Autrichiens font un boulot épatant en exportation sur le plan privé, mais aussi sur le plan de l'État. Mais il faut arrêter de se plaindre. Je reste un vieux libéral. Je suis pas fou de l'intervention de l'État dans tous les domaines, mais dans ce domaine-là de l'exportation, je crois que l'État nous soutient à présent efficacement. Mais c'est surtout à nous, c'est de l'entreprise privée. Et puis surtout, si on veut exporter, on doit exporter ce qu'on a de meilleur et pas ce qu'on a de moins bon. C'est comme le tourisme, j'entends. On montre ce qu'on a de mieux. Imaginez d'exporter du Chasselas à 4 francs la bouteille au Japon, ça n'a pas de sens. Il y en a des bien meilleurs et des moins chers.
Bon, on va passer une large partie de la deuxième partie de cet entretien à parler de grandeur nature, mais on va peut-être y aller avec un dernier angle. Hein. On a abordé l'aspect commercial du monde du vin suisse. Il y a l'aspect climatique, environnemental. Vignoble grandeur nature va y répondre. Le climat, ce fameux chasse-là, là, il va tenir combien de temps avec un climat qui se réchauffe?
Alors, écoutez,
parce qu'il est parfait pour nos latitudes, mais si ça se réchauffe.
Aujourd'hui, il est parfait pour nos latitudes. Il y a des cépages qui sont moins parfaits. Je pense en particulier au Pinot Noir qui a une maturité excessive la plupart du temps. Donc, on doit se poser des questions sur l'encépagement. Pour le moment, le chasse-là est parfaitement idoine sous nos latitudes. Plusieurs raisons, le climat lui convient et surtout dans Chablais en particulier le terroir lui convient, on a un terroir pour le chasse-là. Si on devait le remplacer, ce qui sera peut-être le cas dans 50 ou 80 ans, ça sera très compliqué, mais on vit ce changement climatique en direct.
Il y a des vins très bons plus au sud qui pourraient s'adapter ici.
Vous prenez les augmentations de température, je crois qu'un vin qui est cultivé à Bordeaux dans 10 ans pourrait être cultivé à Lille ou à Bruxelles. Donc on le vit tous les jours.
Les premiers vignobles en Scandinavie, en Angleterre.
Il y a des vins épatants en Angleterre. C'est quand même pas un pays qui est originellement favorable au vin.
Bon, il y aurait les Vermentino du Chablais alors.
Non, peut-être pas jusque-là. Moi, je serai plus de ce monde, bien heureusement.
Bon, on va se retrouver, hein, Philippe Jex, d'ici quelques instants pour la deuxième partie de cet entretien. On va parler de ce beau projet Grandeur Nature.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Philippe Jex, on se retrouve dans ce vignoble printemps. Ça démarre quand là? J'ai vu les bourgeons. Hein, les bourgeons sont là déjà.
Ah oui, là c'est déjà démarré depuis 10 jours. On n'a jamais vu démarrer aussitôt.
C'est vrai.
Il y a 15 jours, il y avait déjà des bourgeons dans certaines vignes. C'est tout à fait extraordinaire.
Donc ça veut dire, sauf aléa, on sait que
il y a quelques règles. 100 jours après ci, 40 jours après la véraison, 100 jours après la floraison. Mais ça ne faut pas trop y compter. Mais on sait par définition que si ça démarre très tôt, on vendangera très tôt.
Ouais.
Le seul problème qu'on voit, c'est que ça démarre très tôt en mars ou en avril. Et comme on risque de geler jusqu'à fin mai, les vignerons dorment mal pendant quelques semaines.
Oui, là on est dans comme les arbres fruitiers d'ailleurs.
Exactement,
on est dans ce moment dangereux où s'il y a une gelée nocturne.
Ah, c'est cuit là.
Ouais.
Ah, c'est cuit là, ouais. Ouais. On a eu de la pluie, il y a de l'humidité. S'il fait moins 1, moins 2.
Mais il n'y a rien à faire. Parce que dans le Valais central, on voit l'arrosage.
Il y a eu quelques essais, des petites choses comme ça. Aux bougies, dans les plats, dans la plaine, j'y crois, évidemment, ça fonctionne. Dans le coteau, vous savez, vous connaissez le froid,
les airs,
sang, etc. Ouais. Donc je pense que dans le coteau, ça ne sert à rien.
Bon, ça fait partie de l'histoire millénaire de l'agriculture, du vin. C'est le climat.
C'est ce qui rend ce métier
merveilleux.
Il est fait de merveilles et de modestie.
Et voilà, de grandes misères et de beaux plaisirs. Bon, vignoble grandeur nature, Ivorne grandeur nature plutôt, c'est un projet par rapport à ce qu'on disait en première partie, hein, il faut se mettre dans l'époque, à la fois d'un point de vue environnemental et d'un point de vue commercial, en analysant, en faisant une sorte de photographie et en agissant sur un terroir. Et l'originalité de ce truc, c'est qu'on le fait tous ensemble. 2019 lancé.
Ouais, 2019, lancé ce projet. On va pas revenir sur l'épisode du Covid. Évidemment, il s'est rien passé pendant une année et demie pour les raisons qu'on
a pas. Parce qu'en 2019, on disait 4-5 ans.
C'est toujours 4-5 ans, mais on peut considérer dans le fond que le projet a démarré en 2021-2022, effectivement, avec la Haute École de Changin qui nous accompagne dans ce projet. On a la majorité des surfaces et des vignerons qui font partie de ce projet, qui est dynamique. On a trouvé le financement, comme vous le savez, pour ce projet sur 5 ans. Avec un montant très conséquent qui a été financé par la fondation de famille Mava, la fondation de la famille Hoffmann. Et puis aujourd'hui, on y travaille.
Juste un mot sur cette fondation, la famille Hoffmann, famille de la pharmacie, de la chimie, et qui a œuvré pendant de très longues années, Luc Hoffmann, hein,
fondateur de cette fondation,
dans l'environnement, à travers le monde entier.
Absolument.
Et c'était un petit peu le dernier projet, parce qu'elle est plus active. Là.
Absolument, c'était, à ma connaissance, le dernier projet financé par la fondation Mava.
Dans la fondation.
Non, pas des montants comme ça, mais si vous saviez, on ne va pas en parler à l'antenne, mais les montants extraordinaires qui ont été versés à travers cette fondation pour la protection de l'environnement dans le monde, ça relativiserait l'impression qu'on a parfois sur les personnes très riches.
Ouais.
Ceci mis à part.
On peut débattre de ça.
Oui, on peut débattre, ça fait l'objet d'un autre sujet, mais j'ai des choses à vous dire. Et puis, donc, ce projet fonctionne, Changin nous accompagne là-dedans de manière extraordinaire. On a fait, comme vous l'avez signalé, en état des lieux au début de ce projet en 2019 avec Raymond Delars, qui est biologiste à Hollon, et avec son bureau qui a fait un état des lieux pour savoir comment était le vignoble d'Yvorne, ce qui nous a permis...
Mais ça veut dire quoi, comment était? Parce qu'on sait qu'en gros c'est du chasselas et quelques autres cépages.
Oui, mais ça, il
n'a
pas fait l'analyse des cépages, mais l'analyse du sol, de l'environnement, du biotope...
Les autres plantes.
Absolument, les autres plantes, les oiseaux, les mollusques, les escargots, les serpents, les arvers... Le bruyant zizi et la linotte mélodieuse, c'est des oiseaux qui nous rappellent quelque chose. Et puis, le constat était finalement de se dire, tiens, malgré une culture intensive, le vignoble d'Yvorne est en bon état, avec la périphérie que sont les forêts de la commune d'Yvorne. Et puis, sur la base de ce constat, on a pu faire un projet avec Changin, sur un programme sur 5 ans, pour que ce projet... On a toujours utilisé le mot bio qui fait parfois peur. C'est pas tellement l'objectif bio. C'est de mettre en place tous ensemble un vignoble vertueux, respectueux de l'environnement, de la biodiversité. En 2 mois, faire le maximum pour l'environnement, tout en ayant à l'esprit que l'entreprise doit gagner de l'argent. Parce que c'est ça, dans le fond, qu'il faut mettre dans la balance. On peut faire de l'écologie extrême.
Bon, vous dites le mot bio fait peur, mais si des gens comme vous se mettent à l'utiliser,
oui,
il fera moins peur. Vous citez sur le site internet de ce projet que quelques grands domaines très prestigieux dans le Bordelais, etc., se sont mis au bio, à la biodynamie, non seulement pour des idées de vertu, mais aussi pour des idées économiques. Le public change.
Je peux vous donner un scoop. Il y a un fameux domaine en Toscane, très fameux domaine, peut-être le plus important et le plus connu à l'étranger, qui nous a contacté en fin d'année, le directeur général, pour dire, on a entendu parler par une fiduciaire luganaise, je ne sais pas pour quelle raison, on a échangé pendant des heures au téléphone et par vidéo, il souhaite prendre notre modèle Yvorne Grandeur Nature pour en faire un modèle dans leur domaine. Pour ne pas le cacher, c'est Sassicaia.
Oui,
c'est quand même pas rien. Et pour nous, c'était assez flatteur, finalement, qu'on fasse office de précurseur, d'explorateur dans ce domaine. Et comme vous l'avez signalé, non pas tout seul sur notre domaine, ça serait fait depuis longtemps, mais tous ensemble. Parce que l'idée, vous l'avez bien compris, c'est de protéger l'environnement au maximum, puis en même temps d'utiliser ce projet Yvorne Grandeur Nature en termes de communication pour vendre mieux nos vins et plus cher.
Bon, il faut prendre son bâton de pèlerin, aller convaincre les propriétaires, les vignerons.
Mais bien sûr.
Ça, c'est fait. Vous avez quel pourcentage des vignerons d'Yvorne?
À peu de choses près en termes de surface, parce que c'est ça qui est important. On est à près de 80% des surfaces qui sont inscrites au projet Yvorne Grandeur Nature. Mais il y a évidemment quelques résistances que... Je perds pas espoir, parce que le constat aujourd'hui en termes d'environnement, je crois qu'il n'y a plus besoin de faire de grandes discussions. Il n'y a qu'à ouvrir la télé et puis on est au clair. Donc on sait dans quelle direction on doit aller, mais en même temps c'est compliqué. Travailler dans le sens de l'environnement, faire du bio, comme vous le disiez, ça coûte cher, ça produit moins. Dans une époque où le vignoble ne va pas extrêmement bien, et il faut trouver des vignerons qui écoutent ça.
Qui ont le sens de l'aventure.
Qui ont le sens de l'aventure, mais surtout qui voient plus loin que demain. C'est pas aujourd'hui le projet, c'est dans 5, 10 ou 15 ans. Quand on pourra vraiment utiliser ce projet Yvorne Grandeur Nature pour valoriser nos vins, à ce moment-là, peut-être que les derniers vignerons qui ne sont pas enthousiastes pour ce projet rejoindront le train du futur.
Ouais, moi, ça remue mes convictions démocratiques, votre affaire, là, parce que j'y réfléchissais en venant vous voir, et je me disais, En allant discuter, en prenant les gens les uns après les autres, en créant un modèle, on trouve le volontariat. Alors que si on avait fait une votation communale en disant « Est-ce que vous voulez que le vignoble passe au bio ?», ça aurait été refusé quasiment certainement.
Oui, probablement. Mais je peux vous donner différents scoops. Je vous ai parlé de Sassicaia tout à l'heure. Vous savez qu'Yvorne a un vignoble qui est très connu, mais on a également un grand domaine agricole. Toute la plaine du Rhône sur la commune d'Yvorne est cultivée en agriculture. La plupart des agriculteurs de la plaine du Rhône sont déjà en bio et nous ont demandé de rejoindre notre projet. Dès le départ, moi, j'avais pas souhaité qu'on élargisse à l'agriculture parce que je trouvais que c'était déjà assez compliqué de le faire sur le plan viticole. Mais aujourd'hui, la demande, elle vient des agriculteurs de la plaine qu'on a rencontrés. Il y a une petite commission qui s'est mise en place. Il y a une journée de la biodiversité qui est fixée d'ailleurs au 4 mai, sauf erreur. Et à l'intérieur de cette journée de la biodiversité, nos amis de la plaine, qui sont agriculteurs, vont y participer largement parce qu'ils sont en tout cas aussi en avance que nous, si ce n'est plus. Alors, c'est extraordinaire de voir que, dans le fond, ça suscite des envies aujourd'hui, finalement. comme tous les projets, on doit faire envie. Pour vendre une bouteille, il faut faire envie. Pour faire un projet comme ça, il faut faire envie. Les gens doivent avoir envie d'y participer.
Bon, qu'est-ce que ça veut dire pour un producteur d'entrer? Parce qu'il y a un cahier des charges, hein, c'est pas juste une étiquette marketing. Il y a un cahier des charges. Qu'est-ce que ça implique?
Alors, ça implique un effort personnel. Ça veut dire de la part du propriétaire, de la part des collaborateurs. Il y a un cahier des charges qui est consultable, bien sûr, sur
Internet.
Élaboré
avec Changin, d'ailleurs.
Qui est élaboré avec Changin, qui est sur 8 chapitres, avec différentes mesures de base, moyenne et plus avancée. On y adhère, on le fait, mais on le fait à notre rythme. Il y a pas, on a voulu faire un projet où il n'y a pas d'interdiction. On suppose que les gens vont le faire de manière enthousiaste. Et c'est ça qui est extraordinaire avec ce projet. Alors, les agriculteurs de la plaine y participent à présent, c'est formidable. Notre garde forestier qui s'occupe du domaine des agites, enfin, les forêts communales entre autres, y participe aussi au comité, donc les forêts en font partie. On a un projet global. Je dois avouer parfois que je me demande pourquoi tout le monde ne s'est pas levé spontanément en disant « c'est génial, faisons-le ».
Oui, ben pourquoi?
Mais parce qu'il y a quelques obligations. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est compliqué. Parfois,
on va parler d'un exemple, les produits phytosanitaires. Qu'est-ce qu'on en fait? On n'en met plus? Fait différemment?
Mais il y a des programmes phyto qui sont dans le cadre bio. Il y a 1000 solutions. Mais ce qu'on veut, c'est limiter les herbicides, c'est éviter le glyphosate dans la mesure du possible, ouais. Même si ce n'est pas un herbicide aussi épouvantable qu'on a bien voulu le dire. C'est limiter les produits phyto que vous avez évoqués. Il y a plein de solutions, il y a plein de vignerons qui le font. Il y a à côté de ma cave, il y a un vignoble qui fait de la biodynamie. Tout va bien. Mais il faut le faire sérieusement. Ce n'est pas un métier de rêveur. J'utilise des fois cette image un petit peu excessive de l'écolo qui a des boucles d'oreilles tout autour de la tête et des chapeaux en macramé. Il ne faut pas rêver pour faire ça. C'est du travail, ouais. C'est compliqué, c'est coûteux et ça produit moins, en tout cas au départ. Alors, c'est une équation qui est difficile à faire comprendre et je comprends parfois mes amis et collègues qui se disent Attends, c'est déjà compliqué. Si on met encore une couche, ça va être encore plus compliqué.
Vous m'avez dit être un vieux libéral dans la première partie de cet entretien. C'est écolo avec les sandales en macramé. Là, vous lui reconnaissez son utilité de lanceur d'alerte depuis 40 ans. On l'a bien souvent moqué, on l'a ignoré, on l'a combattu.
Mais bien sûr, on parlait tout à l'heure d'une conseillère nationale bien connue qui fréquente Montcarnot. Si ce n'est assidûment, en tout cas de temps en temps. Évidemment que je comprends ça et j'y adhère. Seulement, il y a le fond et la forme. Et comme libéral, je veux dire, moins d'État, j'aime pas les interdictions, j'aime pas qu'on m'oblige à faire des choses. Et j'aimerais que les gens adhèrent à ce projet spontanément, volontairement, en comprenant l'intérêt qu'il a à moyen terme.
Bon, c'est là que je faisais la comparaison avec une votation communale. Hein. C'est tout à fait enthousiasmant de voir qu'en effet, on peut entraîner l'enthousiasme plutôt que demander de décider. Et puis les gens sont un peu tétanisés.
Bien sûr, je peux vous donner encore une information dans le cadre de ce projet Yvonne Grande Nature. Puisque nous sommes. Il n'y a que des scoops aujourd'hui. On gardera les meilleurs peut-être après l'interview. On a dans le cadre de ce projet donc non pas l'aide mais la participation effective et dynamique de la Haute École de Changin. Dans le cadre de ce projet, une des scientifiques qui nous accompagne qui s'appelle Serena Fantasia nous a proposé de faire un travail de doctorat sur le changement climatique dans le cadre du vignoble d'Yvorne. Et ça suppose bien sûr un investissement conséquent sur 5 ans. On a trouvé le financement. Si je vous dis que c'est grâce à André Hoffmann, vous l'aurez compris, bon, mais à titre personnel,
co-président hein, de ce projet.
Très, très conséquent, qui a accepté de financer ce projet pour imaginer ce que sera le changement climatique dans le vignoble. On va monter des petites serres sur certaines parties du vignoble pour imaginer quelle sera la
Créer des conditions de plus de température,
de
etc.
De plus de température, ouais. De moins de pluviométrie, et voir comment la vigne réagit au fil des années avec des sondages dans le terrain. Enfin, je vous épargne les détails, c'est un peu compliqué. Mais ça veut dire que dans ce projet, on fait vraiment un travail de précurseur. Travail de précurseur qui non seulement a de l'intérêt pour nous, les vignerons, mais qui a un intérêt national et international, puisqu'il y a beaucoup de gens à l'étranger qui se disent « Non, ça bouge quand même pas mal à Yvorne, ce petit village méconnu que personne ne connaît. »
Ouais, en tout cas, ça fait envie, hein, ce que vous nous racontez, plus dans cette idée d'une profession qui prend les devants, hein, plutôt
Absolument.
Que de voir arriver quelque chose qui s'annonce, pas
on
joyeux.
On n'est pas attentiste, on essaie d'être un peu proactif.
Bon, je reviens un peu à la faune. Hein. Il y a aussi, c'est un complet retourner, hein, plutôt que d'atomiser au napalm toute espèce vivante qui pourrait risquer de faire du mal aux raisins, on essaye de sauver les petits, les tout petits animaux qui sont là.
Absolument. Et d'ailleurs, on l'a appris avec Raymond Delarze, un des marqueurs de la biodiversité, c'est les mollusques. Alors nous, on voit les gros escargots qu'on mange de temps en temps dans nos assiettes, mais il y a tout le reste qui sont des marqueurs. Et c'est pour ça, dans le fond, qu'on a aussi institué ce système de biotopes. On souhaite qu'à moyen terme, il y ait 200 petits biotopes à Yvorne. Des biotopes de 20, 40, 50, 100 mètres carrés, tout petits, mais qui sont des relais de biodiversité. Vous êtes encore un peu jeune, Florian, pour vous rappeler le vignoble d'Yvorne, il y a 50 ou 60 ans. Il y avait des cerisiers, il y avait des pêchers de vignes, il y avait toutes sortes de choses. On n'avance rien.
Ça m'amène une conclusion, parce qu'on arrive au bout. Mais c'est ça, moi je trouve ça dingue. Chaque fois qu'on est dans l'innovation face à ces questions climatiques, on se dit, faire pour mon enfant, c'est finalement faire comme mon grand-père.
Mais bien sûr, c'est aussi simple que ça, et je trouve que c'est une chouette conclusion.
On reste là-dessus, et on rappelle cette journée de la biodiversité, hein, surtout le vignoble
d'Yvorne. Samedi 4 mai à Yvorne, où chacun peut s'inscrire et venir, vous serez les bienvenus. En tous les cas, pour la visite et peut-être même pour un apéro qui suivra.
Merci à vous, Philippe Jacques.
Merci.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
La minute hawaïenne.
Sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre?
La minute hawaïenne, c'est la pizza, mais en radio.
C'est pas campé.
Aujourd'hui, dans la minute hawaïenne, la 5e Symphonie de Beethoven, dirigée par le chef d'orchestre allemand, Johannes Furtz von Arsch. La 5e symphonie de Beethoven, dirigée par le chef d'orchestre allemand Johannes von der Arsch. Magistral.
La minute hawaïenne.
Sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de te détendre?
La minute hawaïenne, c'est la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Radio Chablais, programme de nuit.
Le bon plan de Cyril vous est offert par Bliblablo de Net Plus et ses services internet, mobile et TV. Bliblablo, le multimédia d'ici.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Chablais.
Quanta Riviera propose ce 28 avril un concert. C'est un chœur de jeunes de la Riviera. On en parle avec la chef de chœur, Lydiane de Graffenried. Bonjour.
Bonjour.
Déjà, nous raconter brièvement l'histoire de Quanta Riviera.
Oui, volontiers. Elle est assez récente. L'idée de toujours pouvoir faire de la musique avec des gens autour